Sud Radio, Place du Marché, Vincent Fernion.
Mes amis, bienvenue Place du Marché, puisque le réveillon est dans deux jours. Ouais, ça s'approche, hein. Ça fait peur, hein. Il est encore temps d'aller acheter ce qui fera probablement l'essentiel de votre repas de réveillon. Et c'est pour beaucoup d'entre nous une volaille. Et oui, ça reste quand même le truc préféré des Français. Un peu comme les Américains ont leur dinde de Thanksgiving, les Français, semble-t-il, plébiscite encore la volaille de fête, la belle volaille, celle autour de laquelle tout le monde va se regrouper, dinde, poulet, chapon, poulard, etc., etc. Alors ce matin, pour en parler et surtout pour vous aider à faire votre choix, votre dernier choix, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore choisi, oui, j'en connais, je reçois des spécialistes de la question. Julien Bissonnet qui est avec nous du Coq Saint-Honoré. Bonjour Julien.
Bonjour Vincent.
Alors Julien, je vais vous présenter plus avant dans une seconde, hein, parce que Julien, il fait partie d'une grande famille, les Bissonnets, qui sont entièrement voués aux produits carnés, et pas seulement à la volaille. Mais vous, dans cette grande famille, on va dire plutôt de boucher, hein, vous êtes le volailler
de la famille. Exactement. Depuis maintenant 7 ans, je m'occupe exclusivement de la volaille.
Et une très belle adresse à Paris qui s'appelle le Coq Saint-Honoré, que vous avez reprise, et qui est un des temples, hein, de la volaille parisienne. Voilà. Et surtout en cette période de fête, j'imagine que l'activité pas trop impactée, j'espère, par les grèves récemment. Et face à vous, Jean-Noël Quiliez, Quiliez, bah voilà, comme ça je suis tranquille. Alors Jean-Noël Quiliez, acheteur de viande chez Metro. Metro, je le rappelle, c'est une enseigne qui distribue des produits alimentaires à l'usage des restaurateurs et des brasseurs, enfin en tout cas de la restauration.
Oui, et également, alors bonjour Vincent, également à destination des traiteurs, des bouchers. Voilà, c'est ce qui anime, ouais, effectivement, à la fois le plat du jour, mais aussi la restauration gastronomique.
Parce que je veux dire, vous n'êtes pas détaillant, donc vous, vos produits, ils vont être repréparés derrière.
Exactement.
Hein, et notamment ces beaux produits de fête que sont les volailles. Et c'est votre expertise qui nous intéresse, parce que quand on est acheteur, ça veut dire qu'on n'est pas vendeur. Par définition, ça veut dire que vous allez sourcer.
Quoi. Oui, on est 6 mois, jusqu'à 6 mois en amont. Mmh. Pour préparer ces 2 semaines de vente. Mmh. Et effectivement, en termes de volume, c'est aussi très important. Et comme tu le disais, les mouvements sociaux aussi nous ont perturbé énormément l'amont. Mmh. Décembre, chez nous, c'est 220 tonnes de chapon.
C'est 220 tonnes, ça fait de beaux camions.
Ça fait quelques camions
remplis de chapon. Oui,
à 40 tonnes de poulard, c'est 100 tonnes de filet de bœuf, c'est 120 tonnes de filet mignon, c'est aussi 80 tonnes de gigot. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la volaille, effectivement.
Oui, bien sûr.
Et puis, voilà, c'est une effervescence en amont pour acheminer toutes ces volailles qui ont été mises en place et qui ont commencé à négocier à partir de mai. Voilà, et qui arrive sur les tables, et en tout cas chez nos distributeurs, bouchers et restaurateurs.
Julien Bissonnet, je suppose que chez les détaillants et les détaillants de qualité comme votre maison, c'est aussi une période particulière.
C'est une très très grosse période
surtout
pour nous.
Surtout que vous êtes volailler, donc c'est vraiment le produit phare de fin d'année.
Oui, c'est ce qu'on vient chercher au Coq Saint-Honoré, et on a les mêmes problématiques puisque nous avons commandé nos volailles et préparé ces fêtes quasiment au mois de février-mars.
Parce qu'il faut penser élevage.
Un chapon, c'est plus de 6 mois d'élevage.
150 jours d'élevage, oui.
Et plus pour certains producteurs. Donc nous, on s'est mis en place, on a fait des commandes fermes déjà au mois de février-mars.
Ah oui, d'accord. Donc il faut anticiper, d'où les difficultés quand la conjoncture est compliquée, comme on l'a connu là, avant cette période de fête avec les grèves.
Juste avant ces fêtes-ci, les fêtes précédentes, et encore 2 ans en arrière.
Oui, en fait, à chaque fois, vous avez une petite grève ou des manifestations, des choses qui viennent un peu perturber.
Un petit stress. Exactement.
Écoutez, on comprend en même temps le droit de grève, mais ça impacte tellement le commerce. Mais on va en reparler au cours de l'émission. C'est plutôt pour se faire une belle idée de ce qu'on a justement dans nos frigos et de ce que la France peut proposer de meilleur. Alors justement, pour faire plus simplement connaissance avec les produits festifs, ces belles volailles, j'ai envie d'appeler un grand chef. Voilà, un grand chef qui a un savoir-faire formidable en matière de volailles, festives, hein, puisque c'est ça dont on parle. Il est à Paris, il est sur la rive gauche, rue des Grands Augustins, au relais Louis XIII, c'est Manuel Martinez. Bonjour Manuel.
Bonjour, bonjour Bonjour à tout le monde, bonjour Vincent.
Comment allez-vous,
à tous vos invités.
Comment allez-vous?
Très bien, vos invités qui sont de grandes maisons.
Ah bah oui.
Où ils font de la super volaille.
Oui, on est un petit peu là pour ça, Manuel.
Bien sûr.
Et alors, comme moi je suis les chefs sur Instagram, notamment, j'ai vu que sur l'Instagram du Relais Louis XIII, il y a quelques jours, vous aviez mis une volaille, une volaille du pâti,
une
je crois.
Hein. Du pâti. C'est une
Qu'est-ce que c'est?
Une volaille que Pascal Cosnet fait dans la région du Mans, qui sont affinées au lait, qui sont finies au lait, une super volaille avec une préparation exceptionnelle. Et il a un savoir-faire exceptionnel. Et un gras, il y a beaucoup de graisse, donc on se sert de cette graisse, nous, pour faire rôtir la volaille.
Alors, je me tourne vers Julien Bissonnet. Julien, quand on parle volaille en France, hein, et notamment origine, on a évidemment la Bressane avec son appellation d'origine, hein, qui est un peu le haut du panier. On parle beaucoup des volailles dans les Landes et dans le Gers, on va dire dans le Sud-Ouest. Le Mans, il ne m'avait pas semblé que ça soit un terroir exception.
Le Mans a toujours été une terre agricole et une terre pour la volaille. On parlait de...
Oui.
Des poulets de Loué qui sont quand même très
connus. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Hein.
Très connus en France. Oui. Et des éleveurs comme Pascal.
Ah, vous le connaissez, vous, le pâti?
Je le connais très très bien.
Ah oui,
J'ai été le visiter il y a très peu de temps où j'ai vu les chapons encore en élevage il y a un mois à peu près.
Mais dites-moi, Manuel Martinez, du point de vue de la qualité de chair et de la répartition du gras, parce qu'on parle de ça sur des chapons et sur des poulards, est-ce que c'est comparable par exemple à des volailles bressanes?
Alors, chaque volaille a son terroir, je dirais. Hein. Et donc, chaque volaille est complètement différente et l'éleveur a son tour de main. Les volailles de Bresse sont exceptionnelles, les volailles de Rennes avec les coucous de Rennes sont exceptionnelles, les volailles du Gers, les volailles de Chaland, et donc c'est le terroir, c'est
à chaque coin de France
d'élevage,
chaque coin de France sa volaille.
On fait des truffes à tel endroit, du Bordeaux à tel endroit, et on élève des chevaux de course à tel endroit. C'est important.
Alors, ce que vous nous dites, Manuel Martinez, dont je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France, hein, et gond cuisinier étoilé, donc on peut se dire, il sait de quoi il parle quand il parle cuisine, cet homme-là. On peut se dire qu'au fond, c'est pas l'appellation qui prime, mais c'est un peu comme pour les grands vins, c'est le domaine, c'est-à-dire le producteur, l'éleveur.
Le producteur, celui qui va élever sa volaille. Monsieur Bissonnet, vous te disiez, il a été visiter le Pascal qui affine ses volailles pendant plusieurs mois. C'est là, c'est le tour de main. C'est comme quand on va au restaurant, on va manger là pour manger ça, cet endroit. Bon, là, c'est pareil. Tous les endroits, il y a des grands éleveurs de volailles et comme bien des choses.
Bon. Alors, Manuel, je ne vais pas vous garder trop longtemps parce que je sais que le déjeuner ne va pas tarder à approcher. Il faut que vous travailliez un peu. Manuel, au moment du réveillon, est-ce qu'il y a des choses à savoir lorsqu'on va cuire sa volaille? Je ne sais pas comment vous la préparez, vous allez faire une belle volaille.
Donc je récupère, quand je la vide, la volaille, je récupère un peu la graisse.
Bien sûr.
Bien jaune, que je hache.
Qui entoure les viscères, on est d'accord, le cœur, le foie.
Soit je fais fondre, soit je hache, et que je mélange soit avec de la truffe quand on a les moyens, et quand on n'a pas les moyens, on peut mettre un petit peu de fines herbes, hein,
on peut mettre du
persil, voilà. Et je glisse délicatement cette graisse sous la peau.
Ah,
sur les filets,
d'accord.
Voilà.
Vous incisez où pour la glisser sous la peau?
Ça s'enlève facilement avec des gants.
On bouge la peau tranquillement,
et on passe douce. C'est un petit peu de boulot, c'est méticuleux, mais il a une belle couche de gras.
Donc vous régressez avec une graisse aromatisée en quelque sorte.
Voilà, aromatisée, ou on n'est pas obligé de l'aromatiser, on peut simplement mettre du sel et du poivre et la mettre en dessous de la peau.
Ah, c'est pas bête ça.
Voilà.
Ensuite, donc ça va faire une couche protectrice en quelque sorte.
Ça fait une couche protectrice, voilà.
D'accord.
Ensuite, si on a un bon bouillon de volaille, ou nous on le fait, mais on peut acheter un bon bouillon de volaille, on la poche 10 minutes ou 15 minutes,
d'accord,
simplement à 80 degrés, stop. Et ensuite, on la rôtit.
Et on la refroidit avant de la rôtir?
Non, on
la place
pas.
Du pochage au four.
On la rôtit tout doucement au four, pas trop fort. Et au moment, ça dépend de la grosseur, quand elle est cuite, on est un petit peu plus chaud pour la colorer, simplement. Voilà.
Ah voilà, pour lui donner un dernier petit coup de glaçage.
Un petit coup de colorage.
Une
coloration au dernier moment qui donne un joli aperçu.
Bah, vous savez quoi, vous m'avez donné envie de venir au Relais Louis XIII. Voilà, comme ceux qui nous écoutent.
De chez Pascal.
Oui, des grands Augustins, sur la rive gauche, pas loin de Saint-Michel. Voilà. Merci Emmanuel, je vous laisse aller cuisiner et je vous souhaite un très beau réveillon de Noël avec vos clients et puis la suite aussi, parce que les fêtes sont pas finies.
Merci
et merci de vos conseils. À bientôt.
Et bonne année à tous vos interlocuteurs.
On y reviendra. Merci. Allez, mes amis, on va se quitter une seconde. Je rappelle qu'on est avec nos spécialistes de la volaille pour parler des belles volailles festives. Et tout à l'heure, on aura en ligne Mireille Sanchez. Elle vient de publier Le Poulet Voyageur, un guide des recettes à travers le monde du poulet. Ça va bien nous aider avant les fêtes.
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernand.
Allez mes poulets, de retour, place du marché. On va parler de belles volailles, de fêtes, des volailles festives. On va vous aider à choisir d'abord, à les acheter et surtout à les cuisiner en dernière partie d'émission. Je suis entouré de spécialistes, moi j'adore ça. Julien Bissonnet du Coq Saint-Honoré à Paris, donc volailler détaillant. Et puis en face, un volailler qui est pas détaillant. On pourrait dire presque du demi-grossiste, puisque en tout cas de la vente aux professionnels, c'est Jean-Noël Quillez, qui est acheteur de viande chez Métro. Et donc, vous servez les restaurateurs. Alors, messieurs, on a entendu Manuel Martinez tout à l'heure nous dire sa recette, qui est pas mal, de glisser la graisse aromatisée sous la peau de la volaille. C'est vrai que ça protège. Pourtant, je me tourne vers Julien Bissonnet. Le propre des volailles festives, c'est d'être, en quelque sorte, affiné. C'est-à-dire, on va les pousser jusqu'à un élevage plus long, de manière à les couvrir de graisse, déjà.
Exactement, on va les couvrir de graisse, mais on va surtout rajouter du persillage à la viande, c'est-à-dire qu'on va avoir...
Ah oui, dans le poulet aussi,
exactement,
le gras rentre dans les chairs.
Il y a le même principe, on a le gras qui rentre dans les chairs et qui va justement couvrir cette volaille et qui va pouvoir garder une juteosité et un moelleux sur ces volailles en fin d'année.
Alors, Jean-Noël Quillez, vous qui êtes un spécialiste de la viande rouge aussi, parce que vous aimez bien aller voir les vaches et les bœufs dans les prés, il y a ce même sentiment d'affiner la volaille.
Oui, il y a moi qui ai la chance de parcourir un peu les campagnes, il y a cette beauté de voir du vif, à la fois une vache ou une volaille, et puis de s'imaginer ce qu'on peut en fin de parcours, comme vous le voyez chez un boucher ou chez un détaillant. Et ça c'est toute la difficulté. Avec Julien, on en discutait en amont. Il y a aussi à la fois l'éleveur et la qualité de l'éleveur, mais il y a aussi la souche qui est importante.
La souche, bien sûr.
La souche, bien sûr. Il y a la patte de l'éleveur, en tout cas le travail qui fait
la patte
façon.
Du poulet compte moins que la patte de l'éleveur.
Exactement. Et puis il y a aussi le mode d'élevage. Alors on parlait tout à l'heure du chapon qui peut être minimum 150 et voire au-delà, 150 jours d'élevage pour un chapon, vous imaginez, comme on se l'a dit, bien en amont. C'est aussi des semaines en bâtiment, c'est aussi du chaponnage, donc c'est 2 à 4 semaines en bâtiment, c'est derrière du chaponnage, c'est ensuite 20 semaines d'élevage où il va reparcourir un parcours herbeux et c'est après derrière une finition de 2 à 4 semaines pour justement affiner...
Différentes selon les régions.
Oui,
hein.
affiner l'élevage, affiner l'alimentation pour avoir un poids carcasse et une qualité de viande.
Alors, on rappelle que le chapon, c'est le plus gros, c'est la plus grosse... Enfin, à part les dindes, tout cas dans la famille des poulets, puisque c'est un poulet, en fait, que l'on a, je suis désolé de vous le dire, s'il y a des enfants à côté du poste, que l'on a castré.
5 mois,
donc pour âme sensible s'abstenir, mais entendu, il y a des gens qui critiquent cela, mais enfin c'est une pratique ancestrale, ça date des Romains, c'est ça,
ça date des Romains, 162 avant Jésus-Christ, il me semble.
Bon, c'est pas parce que ça date des Romains que c'est louable, d'ailleurs, ça on pourrait dire, il y a des pratiques anciennes qui sont catastrophiques, mais là, c'est quand même pour notre plaisir. Ce chapon, quelle est la différence avec un poulet, qu'est-ce qui va se passer, ou un coq, qu'est-ce qui va se passer?
En fait, au niveau de la castration, on va lui enlever ses attributs masculins. Il va récupérer les attributs de la femelle, qui est de faire du gras. Et sur une poulette, c'est faire du gras pour préparer la ponte, en fait.
Et une poularde, alors, qu'est-ce que c'est une poularde par rapport à un chapon ?
Une poularde, c'est une poulette qui ne va pas avoir pondu, qui va être
de la volaille.
Pardon ?
C'est la génisse de la volaille.
C'est la génisse de la volaille. C'est ça. Alors donc, en fait, en matière de chair, est-ce que c'est comparable, le chapon et la poularde ?
Oui, c'est en partie comparable.
Après, pourquoi vous dites en partie ?
Parce que le chapon va être affiné encore plus longtemps, donc on va avoir encore plus un goût de terroir et une chair quasiment encore plus moelleuse.
Même quand on parle de chapon en dehors de la Bresse, par exemple de chapon du Sud-Ouest, de chapon landais par exemple ?
Bien sûr, bien sûr. Après, ça va, comme on l'a dit au tout début, ça va dépendre de la pâte de l'éleveur, du terroir et de la souche qui va être choisie. Ouais.
Après, le chapon, alors je vois chez nous, chez Jordan, c'est 220 tonnes hein, sur décembre. C'est 80% de notre chiffre d'affaires. Donc ça reste quand même...
Ah oui, c'est le chapon qui est vraiment plébiscité par les restaurateurs.
C'est la poularde, c'est 12%, la pintade, c'est 8%. Donc on a voilà, un produit star qui est véritablement le chapon. Après... sur cette, comme je disais tout à l'heure, génisse de la volaille, hein, la poularde, on a quelque chose parfois d'un peu plus fin, puisque on retrouve quelque chose qui est peut-être un peu moins poussé en termes de onctuosité ou en tout cas à l'élevage. D'accord. Et ce qui fait que après c'est comme vous savez c'est comme tout, on aime parfois certaines couleurs plutôt que d'autres. Il faut laisser
c'est
libre
quel
choix.
Un chapon, le poids moyen.
Un chapon, ça peut aller de 2,8 kg à voilà, 3,7 kg. Voilà, ça dépend ce que l'on veut.
C'est au-delà de 2,5 kg en tout cas. Hein. La limite inférieure, c'est 2,5 kg. Donc, un restaurateur qui se fournit chez vous, Jean-Noël, il va servir combien de personnes sur un chapon?
Un chapon, aujourd'hui, c'est 6-8 personnes.
8 personnes. On va dire 8.
8 personnes. Hein,
parce que dans les cuisses qui sont belles, on peut faire le haut de cuisse et puis le pilon qui est quand même bien charnu.
La poularde, c'est 6.
Et sur les filets, on fait bien 4 personnes. Hein. Bien 4 personnes, plutôt 6 même. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Julien.
Non, je suis d'accord. Et puis si on rajoute en plus si on va farcir la volaille.
Ah bah oui.
Voilà. Ouais.
Ah oui, bien
on
sûr.
On sait que les repas de fin d'année sont des repas très festifs. Il y a toujours un apéritif. Une entrée ou autre, donc ça peut...
Julien, puisque vous avez la parole, il y a une bestiole, j'ai envie de dire, bon, c'est pas très respectueux, une belle bête d'élevage qui a fait son apparition il y a quelques années, c'est la pintade chaponnée. Vous la travaillez également ?
On la travaille, puisque c'est un produit festif. On est exactement sur les mêmes caractéristiques que le poulet, donc c'est une pintade mâle qui va subir l'opération de castrage et donc qui va avoir les attributs de la pintade femelle
avec une carcasse de poids et de gras.
Avec une carcasse beaucoup plus grosse.
Bah, d'autant plus, Jean-Noël, que la pintade, à l'origine, c'est maigre. Ouais. C'est une chair qui est maigre hein, par rapport au poulet.
Poularde 6 personnes, pintade 4 personnes, on est sur un poids beaucoup plus maigre, beaucoup plus, je veux dire...
Restreint.
Ouais. 1,8 kg, 1,2 kg, entre 1,2 kg et 1,8 kg. C'est aussi un goût très marqué, un goût sauvage, voilà, parce qu'en fait il y a pas de c'est un goût qu'on retrouve plus sauvage, très puissant,
mais qui vient de l'origine elle-même de l'animal.
La pintade est un gibier africain à la base.
Exactement.
Ouais, voilà. C'est ça. Hein.
Sauvage. Voilà.
Alors cette pintade, elle a une chair qui est plutôt brune, alors que dans le chapon on va au contraire chercher, si on est dans le sud-ouest, plutôt une chair jaune, et puis si on est en Bresse ou au Mans, comme on le disait tout à l'heure, plutôt du blanc, quoi, du très clair.
Exactement.
Et la couleur, on la retrouve à la fois par la souche, on peut la retrouver par la souche, ou par une alimentation au maïs ou au blé qui donne cette couleur.
Un peu... Parce que ça colore, évidemment, hein, ce qu'on mange, bien entendu. Alors, justement, Julien, vous avez été aux Glorieuses cette année ?
Oui.
Oui, vous êtes passé voir. Alors, les Glorieuses, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous n'habitez pas la Bresse et si vous n'êtes pas un fou de volaille, peut-être ça vous échappait. Vous connaissez le concours Miss France, vous connaissez le Festival de Cannes, vous connaissez les Oscars, mais vous ne connaissez pas les Glorieuses. Les Glorieuses, c'est les Oscars des volailles, en quelque
sorte. C'est exactement la même chose. C'est l'aboutissement d'un travail de quasiment une année pour mettre en avant la qualité d'élevage des différents éleveurs qui vont présenter à ce concours, il y en a trois, leurs plus belles volailles qui vont être présentées et examinées par un jury de professionnels pour...
Alors, ce sont les Glorieuses de Bresse. Donc évidemment, uniquement des volailles de Bresse, les chapons, les poulardes, mais aussi de la dinde.
Dinde, exactement. Pintade.
Oui.
Oie.
Ah, de l'oie également.
Exactement.
Au Glorieux, on trouve de l'oie.
C'est fabuleux, l'oie de Bresse.
Il y a un retour de l'oie, Jean-Jacques Quillet.
Ah, c'est un produit qui est très peu connu. Alors, moi, j'ai eu la chance, à titre perso, d'en manger il y a 2 ans. 7 heures de cuisson. Je vous garantis que le gras, il se fait bien attendre.
Voilà, et c'est une finesse. Est-ce que c'est de l'oie à foie gras ou est-ce que ce sont des souches différentes?
Non, c'est des souches différentes. Comme le canard, en fait, le canard, vous avez le canard de Barbarie qui est plutôt. À destination du canard maigre.
Hein, ouais, d'accord.
Et après, vous avez le canard mulard, voilà, ouais. qui est lui élevé pour le canard gras, à la fois le foie gras et le magret.
Ouais, d'accord.
L'oie, c'est pareil, vous avez.
Donc, que les oies à rôtir, comme les canards à rôtir, parce que c'est un peu en perte de vitesse, on va en reparler, ce ne sont pas des sous-produits du foie gras, il faut le signaler. Alors que le magret est un sous-produit du foie gras.
Exactement. Hein? Exactement, on fait des canards mulards à la base pour son foie gras.
Et voilà, on récupère.
Et ensuite pour son magret, et ensuite
pour les confits, etc.
Et ensuite pour sa cuisse de canard, exactement.
Oui, d'accord. Et l'oie, donc, c'est pareil. Ce ne sont pas des sous-produits, ce sont des oies à rôtir, on peut dire.
C'est des oies qui sont élevées uniquement pour cette période, puisqu'on ne les retrouve que pendant les trois semaines de fête de fin d'année.
C'est un produit qui est très confidentiel. Hein. Il y en a un peu dans le Gers, il y en a un peu dans le Sud-Ouest. Là.
Il y en a en Alsace, j'imagine. Ça se vend encore.
Oui, tout à fait. Avec un taux de fonte, le taux de fonte. Quand on fait une terrine et qu'on choisit un foie gras d'oie, vous avez une couleur qui est très claire, qui est très pure, vous avez une finesse de viande, c'est quelque chose qui est la fonte, et vous avez moins de 5% de fonte sur quelque chose que vous maîtrisez après l'abattage. C'est un produit qui est, quand vous avez goûté un foie gras d'oie, vous avez du mal à revenir sur le canard, qui est plutôt plus fort, plus prononcé, et qui a un goût beaucoup plus...
Moins de finesse, peut-être.
Exactement, exactement.
Mais en revanche, tient mieux la cuisson quand on veut escaloper. L'oie, il paraît que c'est pas génial.
Oui.
Voilà. Et il vaut mieux prendre du canard qui est plus goûteux et qui va se tenir mieux. En revanche, l'oie, oui, il y a une noblesse, certes. Alors, c'est pas notre sujet du jour, les foie gras, mais ça fait partie, évidemment, de votre activité en ce moment. Dieu sait qu'il y a les volailles festives d'un côté, et puis le foie gras que tout le monde, effectivement, achète. Et là aussi, ça doit être des tonnages impressionnants chez vous, Jean-Noël.
Oui, c'est 1000 tonnes de foie gras. Hein, voilà, c'est 800 tonnes.
Je rappelle, une centaine d'entrepôts, hein, métro en France. C'est-à-dire un maillage à peu près réparti partout. 1000 tonnes, c'est-à-dire, si je fais le calcul, parce que je ne suis pas complètement débile en arithmétique, c'est bien 10 tonnes par entrepôt.
C'est ça, à l'année.
Enfin, en moyenne. Hein, parce que
après, on a une saisonnalité. La chance que l'on a dans la restauration, c'est que c'est des produits qui sont bon, pour nous, très techniques, hein, puisqu'en fait, on a ce qui fait la qualité d'un foie, en tout cas à deux destinations, à la fois pour les terrines et pour les escalopes. C'est avant toute chose, ben, on a parlé du choix de l'éleveur, de l'industriel aussi, le refroidissement à chaud. Vous avez une technicité sur l'outil qui est importante. Vous avez aussi une maîtrise du tri des foies. Bien souvent, ce sont des femmes qui ont la capacité à avoir une texture, à toucher cette texture entre...
En tout cas, une sensibilité
mou.
Parce que ça se fait à la main. Hein,
exactement.
On tâte, en quelque sorte, Julien, c'est ça ?
C'est important.
C'est de sentir la texture, la résistance du foie.
Exactement. Et après, plus on s'éloigne de l'abattage et plus vous avez une fonte. Et puis vous avez aussi le respect du calibre qui fait une qualité de...
Bon, on s'est un petit peu éloigné, mesdames et messieurs, de notre sujet de base qui sont les volailles de fête. Mais enfin, de fête, justement, on peut dire que le foie gras fait partie quand même des volailles de fête puisque c'est une partie du canard et le canard est une volaille, jusqu'à plus ample informé. Mes amis, on se quitte une minute, on écoute la réclame. Oui, ça s'appelait comme ça il y a 50 ans, hein, c'est pour dire que c'est générationnel. Et on se retrouve tout de suite.
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernand.
Allez, mes amis, de retour, place du marché, c'est vraiment un marché de volailles ce matin. Ça caquette dans les allées, comme on dirait. Alors, en fait, vous le savez, on parle des volailles festives avec les spécialistes du sujet, que sont Julien Bissonnet du Coq Saint-Honoré à Paris et Jean-Noël Quillez de la maison Métro, sans entrepôt en France, hein, qui distribue vers la restauration, hein, en priorité, mais aussi les traiteurs, mais aussi les pâtissiers, mais enfin moins pour la volaille. C'est clair, sauf ceux qui font des pâtés croûtes, hein, allez savoir, il y en a peut-être certainement. Alors, mes amis, on parlait justement de ces volailles de fête. Tout le monde a entendu parler de la volaille de Brest, tout le monde connaît ça, même s'il ne l'a pas goûté, c'est un peu la tête d'affiche, la locomotive de nos volailles françaises. Mais au moment d'aller faire votre choix de volaille, d'abord j'ai envie de dire, bah, allez chez votre détaillant, hein, comme l'est Julien Bissonnet, plutôt que d'acheter ça en grande distribution où on n'est pas toujours conseillé, parce que le conseil est important. Alors chez Métro, comme c'est de la grande distribution professionnelle, il y a le conseil, évidemment, hein, mais vous savez bien que dans vos grandes surfaces, il n'y a pas toujours le temps de vous dire lequel est bien. Alors justement, Julien, je voulais que vous nous donniez des noms, voilà, des noms d'appellations, de terroirs et même d'éleveurs.
Alors je vais commencer par un éleveur que je suis depuis très longtemps.
Oui.
Il s'appelle Arnaud Tauzin. Mmh. Il est dans les Landes.
Oui.
Et il élève donc chapon, dinde et pintade chaponnée pour les fêtes.
Oui.
Et une poulette toute l'année.
Et du coup, si on dit Landes, on dit nourri au maïs ?
C'est nourri au maïs de la ferme.
Bah ouais. Ah sûr. Oui, de la ferme. Oui, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, on reste sur le terroir, donc élevé sur la ferme et avec le maïs et les céréales de la ferme.
Et lui, il fait vraiment de la volaille, c'est-à-dire il y a pas de foie gras un petit peu ou pas.
Non. Il s'occupe uniquement de la volaille.
Uniquement de la volaille.
Exactement.
C'est important d'être quand même en monoproduit parce que il y a un travail qui est très précis, j'imagine, pour un éleveur de volaille.
C'est très précis, c'est un savoir-faire, donc lui qui tient de ses parents. Et important, oui, de se concentrer sur un produit pour bien faire les choses, que de se disperser à vouloir faire beaucoup de produits, mais qui seront forcément à la fin peut-être moins bien travaillés.
Quand on regarde, Jean-Noël Quiez, les rayons en entrepôt chez Metro, il y a beaucoup de volailles de Bresse en ce moment. Ça veut dire que ça se vend bien encore. J'ai vu du Miral qui est un grand distributeur de ces volailles.
Oui, alors la Bresse, elle est peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, la Bresse, elle est peut-être à l'apogée. Et comme le disait peut-être un peu Julien, on cherche la clientèle cherche aussi d'autres régions, d'autres appellations. On va de plus en plus vers ce travail à façon. Pour nous, on travaille avec la Maison Miral sur certains un grand nombre d'entrepôts. On a parlé d'oies, on a parlé de
chapons. Des oies de Bresse, donc.
Oui, des oies de Bresse, de chapons et autres. Moi, j'ai aussi envie de vous parler d'autres.
Mon petit coup de cœur.
Ouais, mon petit coup de cœur, c'est. Alors, on parle de volaille, mais c'est aussi. Il y a du pigeon aussi.
Ouais, c'est vrai que ça. Il y a beaucoup en restauration de pigeons.
Exactement, le pigeon. Je pourrais vous parler du pigeon de Racan.
Ah oui. Ouais. Où est-ce que c'est ça?
Racan, c'est dans le nord. C'est à 30 km au nord de Tours.
D'accord.
C'est quatre éleveurs, dont un éleveur qui était Julien Placel, qui a initié ça. C'est 2000 couples de pigeons. Un pigeon aujourd'hui, un couple élève 14 pigeonneaux par an. Une femelle, elle pond tous les 18 semaines. Après,
d'accord,
il y a 30 jours de couvage. Derrière, ensuite, il y a une répartition des rôles dans un couple. Hein, parce qu'en fait, un pigeon, ça vit 5-10 ans, qui est très fidèle, avec une alimentation avec la bouillie au béquet, avec du lait qui est donné au jabot. Et en fait, on a une qualité d'élevage, on a une qualité de. On ne peut pas intensifier cette production-là.
D'accord.
Et c'est ce qui fait que. Et le pigeon de Racan, c'est l'un des plus beaux pigeons au monde. Voilà, c'est pour justement à la fois le mode d'élevage, qui est un pigeon élevé en plein air, aux céréales.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de grosses pièces de volaille au moment des fêtes, parce qu'il y a souvent cette image d'Épinal du Noël en famille, hein, où on est nombreux, donc on va penser chapon. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui passent Noël à deux, ou même seuls, malheureusement. Ça ne les empêche pas de se faire un pigeon, une caille aussi, qui est une belle volaille, hein, pour peu que ça soit bien élevé, Jean-Noël.
Oui, glacé avec des navets, et puis avec un peu de. Voilà, des choses un peu.
Ah, parce que vous cuisinez aussi.
Un
vous
petit
faites
peu,
pas cacheter, ouais, pour Métro.
Un petit,
c'est bien.
Un petit peu. Un petit
ah,
peu.
Bah, vous êtes doué, hein. Julien Missonnet, il y a une autre volaille. On a effleuré tout à l'heure. On en a presque honte et pourtant, c'est la dinde. Hein, souvent, la dinde est associée à ces images d'horribles dindes américaines boursouflées comme des culturistes, alors que la dinde fermière, c'est merveilleux.
C'est exceptionnel. On est sur les mêmes qualités de. Je veux dire qu'on parlait du chapon tout à l'heure, mais la dinde est un autre produit fabuleux avec des éleveurs qui les mettent en place en même temps que les chapons, avec des qualités gustatives exceptionnelles et les idées reçues d'une dinde sèche quand elle est bien faite, bien préparée. Et bien cuisiné surtout à la fin.
Une dinde sèche.
Une dinde qui est sèche en bouche.
Oui, c'est souvent ce qu'on craint.
Et hein, pas du tout.
Parce que c'est mal cuit. Là, au contraire, on a du gras.
Exactement. On a du gras sur une vraiment belle dinde fermière. On a du gras, on a du persillage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et à la fin, on a un produit qui est merveilleux.
Vous savez, on a tous cette image en tête. Vous vous souvenez du sketch de Mr Bean où il termine avec la dinde sur la tête? Mais ce sont des dindes qui font 8 kilos, ça?
Ah non, là, on est sur des dindes qui font.
Tant que là, on parle de fermière, c'est combien? C'est 3 kilos?
C'est comme la même chose que le chapon.
D'accord. Entre 2,5 et 3,5.
Exactement.
Hein, donc, c'est des petites dindes. Et
exactement.
Donc, elles gardent justement une fermeté de chair et une jutosité, presque, on peut dire?
Exactement.
Ouais, parce qu'en fait, la dinde dont tu parles, c'est la dinde de Thanksgiving.
Eh oui.
Voilà, et là, on est sur des poids qui sont beaucoup plus importants,
ouais,
qui
montent
jusqu'à 6-8 kilos.
8 kilos,
c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est de la dinde standard, en fait. Voilà. Contrairement à la dinde fermière, où là, on est sur quelque chose de.
La dinde Pâques,
ouais,
comme on pourrait dire pour
c'est
le poulet.
Petite princesse. Prête à cuire. C'est une petite princesse. Voilà.
Celle-là, la fermière. Alors, notamment, moi, je pense à la rouge des Ardennes, là, qui est une belle appellation. Dans les Ardennes, il y a le boudin de Rethel et la dinde.
Ouais, exactement.
Grosso modo, quand on a des beaux fermiers qui travaillent travail. Alors, je vais passer un coup de fil à une amie. Vous connaissez le principe. C'est de s'entourer d'amis au téléphone. Puisqu'on parle ce matin des volailles festives, j'avais envie d'aborder ça sous un angle culinaire et d'ouvrir un petit peu le champ d'investigation. Parce que tout à l'heure, Manuel Martinez du Relais Louis XIII à Paris nous donnait un peu la méthode tradie de la volaille au moment des fêtes. Eh bien, Mireille Sanchez, que j'ai en ligne, elle va nous donner des recettes qui sont pas tradies. Bonjour Mireille.
Bonjour à tous.
Vous allez bien? Alors Mireille, elle vit en Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, c'est pour ça qu'on l'a au téléphone. Et alors, vous avez fait un travail absolument incroyable Mireille, vous avez publié un livre qui s'appelle « Le poulet voyageur, 1000 recettes à travers le monde pour le poulet ». C'est extraordinaire.
Oui.
Ça vous a pris combien de temps?
7 ans.
7 ans de travail, oui. 7 ans de bonheur.
Et 7 ans de bonheur, absolument. Mais de régalades, de dégustations, de gourmandises.
Ah oui, parce que vous avez goûté les 1000 recettes. Enfin, peut-être pas les 1000, mais en tout cas, une bonne partie, hein.
Une bonne partie, oui.
Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est à la gloire du poulet, et Jean-Noël nous le disait, ça reste une vente extrêmement forte hein, dans les rayons viande, parce que le poulet, c'est assez consensuel. Hein, les gens qui ont même une réticence à la viande rouge, ils mangent quand même du poulet. Il y a ce côté, l'abattage des mammifères, ça les gêne, mais les oiseaux, c'est moins grave. Donc, je dirais que les flexitariens s'accommodent plus facilement du poulet, de la viande blanche et du poulet en particulier. Vous, 1000 recettes, vous avez été dans combien de pays, enfin, à travers vos recettes?
Alors, dans le livre, il y a 247 pays.
Oh là
et
là
il y a
là.
À peu près plus de 400 régions des pays.
C'est ça
on ne mange
fou.
Pas le même poulet à New York ou à Los Angeles, au nord ou au sud du Japon. On ne mange pas le même poulet en Alsace et en Provence.
En revanche, ce que vous dites, c'est qu'on mange le poulet partout, du coup. C'est vraiment une viande mondiale.
Mondiale. On le mange partout, dans toutes les classes sociales, dans toutes les cultures et dans toutes les religions.
Ouais, et pas toujours très très bien élevé, il faut bien le dire, parce que c'est d'abord un aliment économique dans certains pays où c'est un moins-disant financier. Hein. Si on n'a vraiment pas les moyens, c'est la seule viande souvent qu'on peut se payer.
C'est vrai, c'est vrai. Il faut s'attacher, dans tous les pays du monde, il y a des petits producteurs, il y a des petites productions
bien
locales.
Sûr.
Et c'est là où vers là qu'il faut tendre.
Et même des gens qui produisent pour eux-mêmes. Vous nous donnez une idée ou deux de recettes comme ça pour les fêtes. Enfin, moi, ça m'amuse de dire tiens, on va peut-être aller à Hawaï ou en Iran ou je sais pas où. Dites-moi.
Alors, il y a une recette toute simple et qui nous emmène dans les îles, qui nous amène au cœur de l'océan Indien.
Ouais.
C'est un curry de poulet des îles Seychelles.
Ah, aux Seychelles, on fait un curry. D'accord.
Oui. Alors, on prend un gros poulet, qu'on le coupe en morceaux, et puis on prépare une marinade. Et alors là, on voyage. Cardamome, gingembre, cannelle, curcuma, clou de girofle.
C'est assez créole, ça, dans l'idée, hein. Ouais.
C'est un peu créole aussi.
Ça ressemblera un peu, c'est vrai.
Ça va ressembler au poulet d'Haïti, par exemple.
Et c'est cuit à l'étouffée, c'est cuit dans un bouillon, c'est cuit comment?
Alors, le poulet est mis à mariner.
Ouais.
Et puis, on le fait revenir et on le met dans un bouillon.
Avec une garniture de quoi?
Avec une garniture d'échalotes, d'ail, de piment oiseau, de citron vert, de ciboulette.
Et je suppose que ça se mange avec du riz après, hein, peut-être.
Et ça se mange avec du riz.
Ouais, ça doit être bien, être bien juteux. Ça, c'est formidable, l'océan Indien. Puis alors, au lieu d'aller dans l'océan Indien pendant les vacances de Noël, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui partent vers Maurice, vers Réunion, faites venir plutôt le poulet des Seychelles chez vous, hein, dans votre région de métropole. Hein, ça changera un peu. Est-ce que, Jean-Noël, quand les chefs viennent chez Métro, ils vous demandent des conseils d'accommodement?
Oui, alors c'est ce qui fait que le cœur de l'assiette du restaurateur, hein, c'est la marée, les fruits et légumes et la boucherie. Et bien sûr que la fraîcheur des produits, hein, on a parlé de notre capacité, hein, c'est quelque chose, j'imagine Julien aussi, et qu'on prépare depuis 6 mois en avant et bien avant, pour 2 semaines d'intensité forte. Cet accompagnement, c'est aussi vrai pour l'ensemble des secteurs, les fruits et légumes, la truffe, les champignons, voilà.
Et oui, bien sûr, tout ce qui va accompagner.
Et l'accompagnement, bien sûr, c'est quelque chose qui est important, à la fois dans les pommes de terre, les champignons de saison, voilà, le goût. Et les gens reviennent sur cet esprit du goût, à la fois sur la volaille et sur l'accompagnement, notamment aux fruits et légumes.
Julien Bissonnet, vous qui êtes d'une famille de bouchers, hein, je pense aux boucheries nivernaises, hein, la génération d'au-dessus, puis votre cousin. Est-ce qu'il y a une place pour le volailler aujourd'hui? On sait que de plus en plus de magasins font tout. C'est-à-dire, on voit des bouchers qui vendent aussi du vin, aussi des fromages, etc. Est-ce qu'on peut être un pur volailler ?
On peut être un pur volailler, mais on est quand même, dans notre boutique, ouvert à un rayon viande, mais un bon 50%, là, ouais, actuellement, ça. 75% de la vitrine, est dédié uniquement à la volaille.
Vous voulez dire qu'il y a votre oncle, votre père, votre cousin, ils poussent tous derrière, prends-moi un petit peu de cimental, allez, sois sympa. Hein, c'est un peu ça.
Ils essayent, mais je suis très conservateur et je suis sur ma volaille actuellement et je ne pense qu'à la volaille.
Qu'est-ce qui va faire le gros des ventes là au moment de Noël? Le produit que vous vendrez le plus, c'est quoi?
Chapon et dinde.
Chapon et dinde, quelle que soit l'origine.
Exactement.
Et vous en proposez plusieurs, j'imagine, hein, des origines pour les chapons et pour les dindes.
J'en ai à peu près une dizaine de chaque, une dizaine d'origines de chapons, une dizaine d'origines de dindes.
Vous allez nous dire lesquelles. Mireille, restez avec nous au téléphone, on fait une petite pause et on revient tout de suite pour entendre ça.
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernand.
Nous voici de retour dans ce beau marché de la volaille. Et oui, je vous rappelle qu'il reste 2 jours, enfin à peine, hein. Si vous voulez la faire cuire longtemps, il va falloir dire un jour, seulement 24 heures, pour choisir votre volaille festive. Ah, je n'oblige personne, hein, bien entendu, à manger de la volaille, mais enfin quand même, hein, une table de fête, une table de Noël où il n'y aurait pas une belle dinde, un beau chapon, une belle poularde, bah, il manquerait quelque chose, hein, sur nos tables françaises. Alors je me suis entouré de spécialistes ce matin, Jean-Noël Quillez de chez Métro. Il envoie passer des chapons, des tonnes et des tonnes en cette saison. Et en face de lui, Julien Bissonnet du Coq Saint-Honoré à Paris. Lui aussi, il en voit passer beaucoup, des chapons et des poulardes, c'est ce qu'il nous disait. Et au téléphone, nous avons Mireille Sanchez, qui est l'auteur de Le Poulet Voyageur. Tout est dans le titre, hein. Ça veut dire que vous avez fait le tour du monde des recettes de poulet. Alors, on se disait hors antenne, parce que moi, il y a un truc qui m'a tenté dans votre grand livre rouge. Il y a le petit livre rouge, c'était Mao, et le grand livre rouge, c'est Mireille Sanchez. Et bien, dans ce grand livre rouge, il y a une recette persane, on va dire, iranienne, oui. qui m'a tapé à l'œil. Dites-nous, comment ça s'appelle ?
Alors, ça s'appelle Ejavaher Polo.
Ah oui, alors polo, c'est le poulet, j'imagine.
C'est, hein, le poulet. Et ça se traduit par poulet au riz aux bijoux. C'est le poulet des contes des mille et une nuits.
Ah oui.
C'est le poulet qui vous emmène dans un merveilleux voyage. C'est un rêve.
Mais alors, sur un tapis volant, alors, celui-là, non ?
Sur un tapis volant.
Hein, parce que le poulet, il a du mal à voler, il lui faut un tapis, c'est ça ?
En tout cas, c'est une explosion de saveurs.
Mais c'est quoi ce riz aux bijoux, là ? C'est quoi les bijoux dedans ? Pistache, raisin, je ne sais pas, moi. Hein.
La famille ?
Oui, alors, safran. Alors, pourquoi bijoux ? Parce qu'il y a dans cette recette du safran, des zestes d'orange, des oranges et des carottes confites, et on dit que ce sont de l'or.
Ah.
Il y a des pistaches, ce sont les émeraudes. Il y a des berbéries, ces petites baies d'arbustes des régions tempérées,
oui,
qu'on peut remplacer par des irènes. Et ce sont les rubis. Et enfin, les amandes, ce sont les perles.
Ah, oh là 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 là, j'adore cette idée, moi.
C'est un plat traditionnel de fête et aussi de mariage. On l'appelle aussi le riz de la mariée.
Alors, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure quand je dis poulao, c'est le poulet, c'est le riz en fait, poulao, hein, puisqu'on le retrouve en Inde sous pratiquement le même nom, hein, le riz poulao, le riz pilaf en fait. Hein.
Le riz pilaf.
C'est,
oui,
une sorte,
oui.
C'est une sorte de pilaf. Et alors, le poulet, c'est, il est cuit comment,
hein? Le poulet, il est cuit dans un bouillon.
Oui.
Et puis, on le retire de la casserole, on va enlever la peau, on va le désosser et effilocher la viande.
D'accord.
Puis pendant ce temps, on a préparé le riz dans 3 bouillons. Vous savez, on le cuit, on le rince, on le recuit, on le rince, on le recuit, on le rince à la mode personne. Et puis, dans une casserole, on va faire revenir toutes ces épices, tous ces raisins secs, toutes ces baies, toutes ces épices, le safran,
eh oui,
le,
eh,
sucre,
oui,
l'eau de fleur d'oranger.
Ah là 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 là.
Hein, c'est
vous avez raison, c'est les mille et une nuits. Enfin, il y a mille nuits et la nuit supplémentaire, c'est celle du réveillon. Parce qu'il faut digérer après tout ça. Hein. C'est pas toujours facile. On sait bien qu'on est un peu lourdingue, hein, parfois le lendemain du réveillon, mais on aime tellement ça. On aime tellement, oui, cette outrance. Hein, transgresser la règle qui est de faire gaffe. Là, non. Alors, le réveillon, on se livre à tous les excès avec bonheur. Justement, quand on parle de cette nuit du réveillon, c'est quand même une forte tendance, hein, Julien. Vous le voyez. Je suppose qu'il y a la queue les 2 jours avant Noël, hein. Je veux dire, chez vous. Non, mais je veux dire, c'est la file, elle dure dans la rue parce que les gens, au dernier moment, ils viennent chercher leur volaille.
Ils viennent chercher au dernier moment et puis les convives attendent aussi le dernier moment pour la fraîcheur et la qualité. Ah bah
j'espère que les convives n'attendent pas pendant que le mec est dans la boutique. Hein, pendant que le cuisinier est en train encore... Oui, c'est mieux hein, d'avoir prévu large quand même. Non mais vous, ça veut dire que jusqu'au dernier moment, vous allez faire des ventes?
Jusqu'au mardi, on ferme à 16h. Je pense que jusqu'à 15h59 ou 16h passées, on vendra encore une ou deux volailles.
Et là, écoutez, j'ai vu vos rayons, Jean-Noël Quiez, il y a beaucoup de poulets Label Rouge. Hein, des beaux poulets d'ailleurs. Là, on a parlé de volailles festives, mais j'ai envie de penser à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un chapon ou une poularde. On a quand même en France ce qu'on appelle le poulet fermier, hein, c'est-à-dire le poulet Label Rouge, avec un élevage suffisant pour faire déjà une belle volaille au moment des fêtes.
Oui, parce que durant le mois de décembre, on ne vend pas que du chapon, de la pintade, de la poularde, hein, en tout cas chez nous. On a aussi une volumétrie qui a un pourcentage qui représente 20%. Oui. De vente de poulet. Donc c'est aujourd'hui c'est aussi une façon d'alimenter ce dernier grand rush que l'on aura sur les deux derniers jours. Le poulet Label, c'est aussi une façon de montrer la vitrine de la volaille. Là, il y a beaucoup d'industriels et d'éleveurs qui sont à l'offre tout au long du mois de décembre et qui garnissent nos vitrines de la plupart de nos bouchers avec une qualité. Là, on est sur du 80 jours, un peu plus pour certains poulets, hein, jusqu'à 120 voire au-delà. On est aussi, alors le poulet Pâques, hein, c'est autre chose, hein, c'est 30-40 jours.
Prêt à cuire, Pâques, prêt à cuire.
Oui, là on est sur 30-40 jours, on n'est pas sur la même qualité. Voilà, après le poulet fermier, c'est aussi une façon pour nous, Métro, de communiquer au travers de l'ensemble de nos terroirs et de mettre en avant ces produits-là.
Et puis de dire dans toutes les gammes, hein, parce qu'on ne s'adresse pas au moment des fêtes qu'à ceux qui ont les moyens de se payer des belles volailles. D'ailleurs, il faut le dire, hein, tout simplement, Julien Bissonnet, un poulet Label Rouge, un poulet fermier, par rapport à ces grandes volailles festives, c'est au kilo un tiers du prix, grosso modo.
Hein? Oui, à peu près.
Ouais, hein? Enfin, globalement. Hein? Donc, c'est vrai que même pour ceux qui ont des fins de mois difficiles, et en ce moment, on entend beaucoup parler, évidemment, avec les événements autour de la retraite de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, on peut se dire qu'avec un bon poulet Label Rouge, on peut déjà se faire extrêmement plaisir si on respecte une belle cuisson.
Bien sûr, on peut faire un très très bon repas avec un poulet Label Rouge et l'agrémenter de tout ce qu'on souhaite.
Oui, pour se dire qu'au lieu de mettre des truffes, on va y mettre des trompettes des morts, des champignons, même de Paris, s'ils sont bien faits, en France, c'est bon.
Et puis il y a aussi la découpe de toute cette volaille Label Rouge, qui aussi permet d'éviter de la perte, hein, j'imagine, sur un couple qui est à deux ou à trois.
Alors là, justement, je vous prends au mot, Jean-Noël Quiez. Justement, quand je vois dans la grande distribution, quatre ou six filets, par exemple, Label Rouge, on va dire, tiens, on parlait tout à l'heure de Loué ou de Chaland, que sais-je encore. Est-ce que c'est les mêmes qu'on retrouverait sur la carcasse si on achète le poulet entier? Est-ce que c'est la même qualité?
Alors, pas tout à fait, en fait. Vous avez comme dans tous les produits, c'est vrai dans les produits de la mer, le beau, il se vend en entier. Ah, après, oui, en fait, le beau, le lourd, c'est comme sur une carcasse dans du bœuf. Voilà, vous avez
donc
pas la même
coupe, c'est un peu un déclassement.
Oui, c'est un produit, c'est pas forcément un produit qui est moins bon, hein. C'est simplement peut-être un poids carcasse, une blessure, quelque chose qui est, voilà, ça reste du poulet, ça reste du vivant, hein, comme du bovin, comme toutes ces produits-là. Et il faut une destination.
Quand vous dites du bovin ou du bovin?
Bovin.
Ah oui, d'accord, bovin. Ouais,
du beau vin aussi, j'aime bien. Mais
bien sûr, vous en manquez pas non plus.
Mais les belles carcasses, voilà, c'est, elles sont principalement vendues en entier. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a deux niveaux d'offres disponibles.
Bon, ça nous fait plaisir quand même de se dire que personne ne sera laissé sur le bord de la route en matière de volaille et qu'on peut quand même, si on cuisine à peu près correctement, avec un beau petit morceau de beurre ou voire un peu de graisse de canard et un poulet Label rouge, on peut déjà se faire plaisir et faire plaisir à sa famille. Mireille Sanchez, je vous disais, vous êtes l'auteur du poulet voyageur, hein, 1000 recettes de poulet. Vous n'avez pas une recette vraiment insolite pour terminer, parce que là, il nous reste 2 minutes d'émission.
Alors justement, on peut se faire plaisir avec un petit filet de poulet de 230-250 grammes qui va coûter 3-4 euros. Et là, je vous emmène au Japon pour un dessert.
Mais non, un dessert au poulet.
Oui.
Ils sont forts, ces Japonais.
Alors, c'est un filet de poulet haché, que l'on mélange avec un œuf, du mirin, du sucre, des sauces soja.
Le mirin, c'est quoi le mirin? C'est une sorte de vinaigre de soja, c'est ça?
Ouais, oui, c'est ça. Vinaigre de riz.
Oui, d'accord. Mm-hmm. Ouais, allez-y, continuez. Je vous ai coupé, hein.
Non, je vous en prie. Du miso blanc, qui est un condiment japonais aussi à base de soja, de la farine de blé. Donc,
c'est une espèce de gâteau, en fait.
Oui, c'est une sorte de gâteau, puisqu'on va mélanger tous ces ingrédients. On va les étaler dans un plat sur une couche de 1 cm d'épaisseur. Et on va le faire cuire au four à 160, 12 à 15 minutes.
Et c'est un gros gâteau de poulet, quoi, en quelque sorte, hein, comme un petit gâteau rond, un cookie de poulet à la japonaise pour terminer le repas de fête. Si vous avez déjà mangé une dinde et un chapon, je suis pas sûr que vous ayez envie de ça au dessert. Mais merci beaucoup, Mireille Sanchez.
Je
renvoie nos auditeurs à votre livre, Le poulet voyageur, 1000 recettes. C'est extraordinaire, hein, des centaines de pays visités à travers ces recettes de poulet, parce que le poulet est universel. Ça, on l'a bien compris à vous écouter, messieurs, ce matin. Jean-Noël, je vais vous libérer, hein, parce que le rush n'est pas terminé, encore deux jours. Hein.
Ouais, on a beaucoup.
Pour vous, c'est la folie. Et ouais. Avec les grèves et avec les problèmes de transport, ça a dû être rock'n'roll, comme on dit.
Ouais, c'est un peu les tensions. Hein, la tension, on en discute avec Julien, elle est très très forte. Très,
voilà.
Très forte.
Mais ça n'empêchera pas qu'on va passer des bonnes fêtes.
Oui.
L'avantage. Alors vous avez, je disais, 100 entrepôts à travers la France, donc évidemment, c'est des problèmes de logistique énormes. Pour Julien, qui a son magasin dans le centre de Paris, dans le premier arrondissement, c'est le premier d'ailleurs chez vous?
Oui,
vous
exactement,
êtes juste
oui.
Encore cœur. Au bord du premier.
Cœur de Paris.
Cœur de Paris. Vous, c'est peut-être moins de problèmes de logistique. Vous avez prévu vos approvisionnements bien en amont.
Hein. Oui, mais on a eu quand même des décalages de livraison à cause des grèves. Mmh. Mais notre gros souci, c'est de sélectionner chaque volaille pour chaque commande.
Bon, ben bah voilà, et oui, parce que et pas donner le chapon de Madame Bertrand à celui qui avait commandé une caille, ou pire. On va se retrouver la semaine prochaine, et on va parler des tendances la semaine prochaine, si vous le voulez, messieurs, j'espère que vous écouterez. Les tendances de l'année, j'aurai mon équipe de tendanceurs autour de moi, figurez-vous. Oui, ils auront bien réveillonné, ils seront en forme, ils nous donneront leur coup de cœur de cette année, et la tendance pour l'année prochaine. Mais ça sera déjà la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous souhaite un très très joyeux Noël, une très belle nuit de réveillon, parce que je sais que ça durera tard, et ne vous lâchez pas trop sur le reste, sur les entrées, parce que si derrière il y a le chapon, la poularde, la dinde, que l'on a de bonnes factures, à mon avis, ça va vous faire que du plaisir. Allez, bonne semaine à tous et joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.